Alors je crois qu'il faut distinguer très très fort les pays où la communauté chrétienne est une communauté des habitants de ce pays depuis les origines du christianisme, dans les pays qui bougent actuellement, je pense en particulier à l'Égypte, et puis la situation des pays du Maghreb où les églises catholiques sont en majorité composées d'étrangers, soit européens, soit africains. Alors si je prends la situation de l'Égypte, sa béatitude Antonios Naguib, qui est le patriarche des coptes catholiques d'Égypte, il a beaucoup insisté sur l'énorme changement qui se passait aujourd'hui dans la société égyptienne. Les jeunes de la nouvelle génération avaient osé sortir de l'inertie, que ce qui avait été mis en avant n'était pas d'abord des slogans ou des divisions religieuses qui existent parfois en Égypte, mais que c'était vraiment une aspiration à la dignité, à la liberté et à la démocratie. Il a souligné que nul ne connaissait l'avenir, mais il y a une grande confiance et la position des évêques catholiques et de mettre les bouchées doubles pour que les chrétiens qui n'y étaient pas habitués puissent prendre leur place dans le jeu social et politique.
Et concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement, ça veut dire que dans un pays où il n'y a eu aucune démocratie depuis 50 ans, les gens, le mot démocratie, ne savent pas quel contenu leur donner. Dans un pays où, malgré ce qui est écrit dans la Constitution, il y avait comme député à l'Assemblée nationale des députés chrétiens nommés par le président de la République parce que sur les listes de ceux qui étaient éligibles, il n'y avait que des musulmans, bah les chrétiens n'avaient pas l'habitude de participer à une campagne politique, etc. etc. Donc c'est tout un apprentissage et le cardinal Antonios Naguib disait qu'il ne savait pas si dans les délais qui sont impartis, tout cela aurait le temps de se mettre en place. Alors, si j'en viens maintenant aux églises du Maghreb qui sont très très différentes, puisqu'il y a une toute petite poignée de catholiques au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Alors il y avait une interpellation très forte de Mgr Vincent Landel, qui est le président de la conférence épiscopale régionale du Nord de l'Afrique, de dire finalement ce à quoi aspirent les jeunes marocains, tunisiens, algériens, c'est ce que vous avez chez vous, c'est la démocratie, c'est la liberté. Et en même temps, c'était apparu jusqu'à présent comme un rêve impossible. Comment allez-vous nous aider pour que ce que vous avez chez vous en termes de vie sociale, politique, puisse se vivre aussi chez nous? Il souligne qu'il y a une grande distorsion entre ce qu'on vit en Europe et ce qui se vit en Afrique et que cette distorsion fait beaucoup rêver les jeunes et que si cet espoir n'est pas comblé, qu'est-ce qui se passera?
Alors justement, comment aider le Maghreb et l'Afrique à connaître cette liberté, cette justice, cette dignité sans imposer un modèle occidental de la démocratie regroupant ces concepts?
Je crois qu'il faut que ces pays inventent leur démocratie. Ils ne pourront pas passer du jour au lendemain du système qu'ils connaissaient de corruption, de partis quasi uniques, à ce qu'on appelle nous la démocratie. Donc dans un premier temps, c'est que les gens puissent se rendre aux élections, qu'ils croient, parce que ça je peux vous dire qu'en Égypte, ils n'y croyaient pas, qu'un bulletin de vote c'est vraiment une voix et qu'elle peut compter dans un processus électoral. Un fonctionnaire européen qui était là disait par exemple que le gouvernement tunisien avait demandé l'aide de l'Union européenne pour l'organisation des élections et avait demandé à ce qu'il y ait des observateurs de l'Union européenne. Donc voilà un exemple. Un deuxième champ, c'est le champ de l'éducation et de la formation. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui ne dépend pas du tout des églises, mais où les églises peuvent, j'allais dire, alerter, c'est le développement et la création d'emplois dans ces pays. Il est clair que si ces jeunes trouvaient à travailler dans leur pays, ils n'utiliseraient pas n'importe quel moyen, y compris au risque de leur vie, pour essayer de venir en Europe. Je citais ce matin devant les évêques d'Europe une phrase que m'avait dite le directeur de la Caritas du Sénégal en disant, vous savez, à Dakar, tout le monde connaît à travers le journal télévisé ce que signifie le mot Frontex. C'est la police européenne aux frontières. Parce que Frontex a donné au Sénégal des hélicoptères et des vedettes pour empêcher les gens d'embarquer sur des embarcations. Il y a de l'argent qui est donné pour ça, mais il y a encore des villages du Sénégal qui n'ont pas un puits. Il faut aider aussi au développement et que la question politique n'est pas séparable de la question sociale. L'autre domaine dont nous avons beaucoup parlé hier soir et ce matin à Bruxelles, dans la ligne du synode du Moyen-Orient, c'est ne plus penser, même si c'est une réalité sociologique évidente, en termes de majorité et de minorité. Et faire en sorte que, quelle que soit la religion, tout le monde soit considéré comme citoyen dans son pays.
Suite aux révolutions, par exemple en Tunisie ou bien ce qui se passe en Libye, l'Europe fait face à une grande vague d'immigration et les partis d'extrême droite des pays occidentaux stigmatisent cette immigration comme un danger. Pourquoi y a-t-il une peur de ces migrants, pour la plupart musulmans?
Nous constatons en France qu'il y a une peur de l'islam et des musulmans à cause de l'histoire, un certain racisme anti-arabe qui est en train de remonter. Même si beaucoup de musulmans dans le monde ne sont pas arabes, ceux avec qui nous sommes en relation ici ont eu souvent des origines des pays du Maghreb. C'est très facile de jouer sur la peur de l'invasion, alors qu'une majorité de musulmans en France cherchent à vivre un islam paisible et que nous avons beaucoup de mal encore à réaliser que 70% des musulmans qui vivent en France ont la nationalité française. Donc on amalgame ces événements récents d'immigration, l'île de Lampedusa, avec la situation de ceux qui sont là depuis une, deux ou trois générations. Pour reprendre la totalité de la phrase de M. Rocard, dont on cite que le début quand il était Premier ministre, en disant « la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part », et ça on oublie toujours, il me semble que nous sommes devant un défi de solidarité entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée. Et qu'il y a beaucoup de liens historiques, affectifs, familiaux, humains qui existent. Que là, ça suppose aussi qu'il y ait des liens économiques et que nous nous comportions peut-être autrement. Moins nous aiderons les pays du Sud à se développer, plus il y aura des problèmes chez nous. Donc c'est pas chacun chez soi. Moi, je connais des jeunes Égyptiens, Libanais, voire Irakiens. Ils souhaiteraient rester chez eux et c'est les circonstances économiques qui les amènent chez nous.